RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous. Alors qu'en cette période de Coupe du Monde de foot, les agents du ballon rond sont en pleine observation en essayant de dénicher la petite perle qui enflammera le prochain mercato d'hiver. Les agents du rugby, eux, sont sur le pont en permanence. Oui, en rugby, le mercato, c'est un peu toute l'année. Et s'il y a bien des dates pour annoncer une mutation ou un transfert, dans l'ombre, les agents veillent au quotidien, tentant de convaincre les stars du rugby de s'engager ici ou là. Un marché de plus en plus florissant où les transferts, petit à petit, prennent le pas sur les mutations. Alors, le rugby va-t-il s'engager sur la voie du foot? Quelles sont les différences entre les deux disciplines et les deux marchés? Et faut-il à l'avenir penser à instaurer un vrai mercato entre les poteaux? Aujourd'hui, on vous dit tout, on parle de flouze, on parle d'argent et on tente de répondre aux questions que tous les passionnés de l'Ovalie se posent. Pour ce faire, l'équipe de choc des poteaux est en place, emmenée par un garçon qui, à une époque où cela était très mal vu, n'a pas hésité à franchir le Rubicon.
Ouais.
Il avait quitté la ville rose pour la ville lumière. Et oui, la lumière, il adorait ça, il adore toujours ça. Ça va, Denis?
Ouais, moi, l'inverse, je suis parti pour moins d'argent.
T'es parti pour moins d'argent?
J'ai gagné beaucoup d'argent à Toulouse. À Paris, j'en ai gagné un peu moins.
Ah ouais? On avait le droit de le faire à l'époque quand même.
Oui, c'est pas si juste. Alors, en 85-86, t'avais pas le droit, t'avais encore la licence rouge, ce qu'on appelle la licence rouge, et t'étais suspendu pendant un an.
D'accord.
Tu pouvais pas jouer pendant un an. Et en 90, quand je pars, c'est bon.
D'accord.
Voilà. Et tu pouvais jouer tout de suite.
À l'époque, on était déjà professionnel, tout juste professionnel. C'est-à-dire que tu travaillais pas aux espaces verts de la ville, en fait.
T'étais électricien pour la ville de Paris.
J'étais payé à rien faire.
Ça m'étonne pas. C'est toujours le cas. 50 ans plus tard, c'est bien, c'est ça qui change pas.
Et toi aussi, quelque part.
À ses côtés, un garçon qui lui a fait le chemin inverse. Il a quitté l'Atlantique et la Rochelle pour Toulouse. Bon, il a fallu y mettre le prix. On n'achète pas Wilfried Templier comme
c'est
ça avec une bouchée de pain. C'est très très cher. Ça a coûté un blé pas possible. Ça va, Will?
Salut. Un peu moins cher que Denis, mais bon.
Ah oui, quand même. Alors lui, il coûte beaucoup moins cher, mais son rapport qualité-prix est excellent, bien meilleur que ce corporel. Ça tombe bien, ce qu'on préfère chez Pierre Amiche, c'est plutôt la taille de son cerveau. Hein.
C'est très élégant, ça merci va, Christophe. Oui, ça va, ils voulaient le meilleur, ils ont pris le moins cher. Bon, ben voilà, on a ce qu'on a.
Ça coûte un Big Mac.
Oh, bravo. Oh, la classe.
Enfin, il est le roi des agents du rugby, celui vers lesquels tous les managers se tournent lorsqu'ils veulent recruter une star. Il a aussi l'oreille des vedettes françaises de l'Ovalie. Miguel Fernandez est notre invité aujourd'hui. Bonjour Miguel.
Bonjour, bonjour. J'adore cette présentation, ça ressemble un peu aux grosses têtes. Hein.
Ouais, bon. On dit beaucoup plus de bêtises que dans les grosses têtes et que dans les grandes gueules.
Bonjour,
Miguel,
bonjour,
donc agent, sans doute l'agent le plus connu aujourd'hui du rugby français. Avant d'entamer, parle-nous un petit peu de ton portefeuille et comment ça se passe en rugby, Miguel. Tu as beaucoup de joueurs comme ça dont tu es l'agent et de plus en plus.
Alors, juridiquement parlant, je suis l'agent de ceux qui veulent bien me mandater, ce qui, dans notre système français, instauré par feu Marcel Martin au début des années 2000, ce sont les clubs qui mandatent les agents. Donc, juridiquement, je représente l'une ou l'autre partie. En revanche, ce que font les clubs, c'est qu'ils, connaissant mon réseau, mes connexions, ils font appel à moi pour justement essayer de faire en sorte que je les mette en relation avec de nombreux joueurs. Ouais.
D'accord, de nombreux joueurs. Et d'entraîneur également. Tu nous parleras un petit peu de tes poulains dans quelques minutes. Je le disais en préambule, le marché du foot est actuellement dans l'attente. Hein. Tout le monde a les yeux braqués vers le Qatar. Est-ce qu'il en est de même pour le rugby? Est-ce que l'automne, c'est le temps des vacances pour les agents sportifs qui œuvrent dans l'Ovalie, Miguel? Ou alors on est toujours sur la brèche?
Contrairement à une idée reçue, un agent ne travaille pas 2 mois par an. On travaille toute l'année. L'automne correspond à la première phase des projets et les entraîneurs et les managers qui viennent d'arriver dans un projet font déjà un premier bilan et se projettent déjà sur la saison d'après avec les réajustements qu'ils souhaitent avoir. Ensuite, les clubs qui sont en pleine exécution d'un nouveau projet qui a été instauré deux saisons avant. Et puis, tu as les projets qui sont en fin de cycle qu'il va falloir renouveler. Donc, l'automne, c'est un premier point de passage hyper important puisque c'est une période pendant laquelle tu recenses un peu les besoins et les envies des différents projets et tu commences effectivement à mettre en relation certains clubs, certains joueurs ou certains entraîneurs.
Donc on dit souvent que les gros dossiers de septembre, voilà, c'est les gros dossiers pour pas septembre l'année prochaine, mais encore la saison d'après. Est-ce que c'est y a une telle avance?
Ouais, c'est souvent ça. Ça arrive, ouais. Ça arrive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'anticipation que font certains clubs et certaines demandes de joueurs ou de managers se fait non pas sur la saison d'après, mais sur la N+1 en fait, N+2 même, j'ai envie de dire.
Mm-hmm. Denis.
Miguel, est-ce que tu trouves normal quand même, parce que le foot quand même n'a pas que des qualités, mais là pour moi il y a une qualité, c'est-à-dire que les contrats ne sont pas préétablis à l'avance dans le football, on est bien d'accord Miguel ? Il n'y a pas...
Ils le sont. En fait, oui, mais... la fenêtre des mercato en fait, n'est que l'officialisation du travail qui a été fait en amont. En rugby, c'est un peu pareil. Lorsqu'aujourd'hui, la fenêtre de tir qui va généralement du... Fenêtre de tir, j'appelle ça, en fait, c'est la période de signature des contrats. Oui. Elle se fait entre mai et juin, n'est que la résultante de tout le travail que tu as fait précédemment. Ce que tu fais avant, c'est les fameux, ce qu'on appelle les pré-contrats, qui sont en fait des promesses d'embauche. Après, là où tu as raison, ou là où c'est compliqué... c'est comment aujourd'hui tu gères quelqu'un dont tu sais qu'il ne sera plus là la saison prochaine, ouais, ouais. Et il te reste 6 ou 7 mois de compétition. Après, Denis, tu es bien placé pour le savoir, aujourd'hui, ça arrive très fréquemment effectivement d'avoir des joueurs qui s'engagent pour la saison d'après dans d'autres clubs. Pour autant, ils ne lâchent pas l'affaire, ils sont toujours aussi investis
dans le club dans lequel ils sont, etc. Oui, mais c'est pas une généralité non plus. Donc,
ceux qui ont une conscience professionnelle, en tous les cas.
Non, mais je trouve que c'est même pas une conscience professionnelle. C'est comment dire, c'est naturel même. Tu peux pas en vouloir au joueur qui va changer de.
Oui, et un joueur dont on sait pas encore qui va jouer dans un autre club la saison d'après, qui affronte son prochain employeur, ça peut aussi.
Oui, puis c'est quand même une anomalie du sport professionnel. Enfin, la situation qu'on connaît dans le rugby, elle est très rare.
Très rare. Oui.
Elle est très rare. Absolument, normalement, on signe un contrat, on s'en va, on va jouer pour une autre équipe. C'est vrai qu'on a vu des entraîneurs qui avaient annoncé leur futur départ. On parle beaucoup des joueurs, mais imaginez la même chose pour un coach. Un entraîneur qui annonce son départ et son arrivée dans un club, qui l'affronte en phase finale. On a vu cette situation arriver.
C'est pire.
Même s'il y a toujours cette musique de dire « Oui, mais ce sont des grands professionnels », ça ouvre la porte à quelque chose qui ne devrait pas exister dans le sport professionnel, qui est le doute. Et on sait qu'on est dans une génération, sans parler de complotisme, qui a toujours envie de donner un petit peu d'épaisseur à ce doute-là. Et ben, je trouve que finalement, le rugby, c'est un des derniers dinosaures. Il n'y a pas d'autre sport où ça existe.
D'accord, mais au foot, tu veux faire comment ? Tu dis que c'est pareil, ça se prépare des mois avant au foot, mais on n'en entend jamais parler.
Bien sûr. Oui, c'est ça la différence. Bah, la différence au foot, c'est qu'on entend... Vas-y, Miguel.
Peut-être parce que les journalistes du rugby sont meilleurs que les journalistes du foot, j'en sais rien. Mais
c'est sûr, c'est sûr. Non, mais c'est une réalité, Miguel.
Une fois qu'on a dit ça, on fait comment ? Comment tu veux aujourd'hui avoir un entraîneur ou un joueur qui se pose des questions sur le projet dans lequel il est et qui souhaite changer ? Comment tu veux faire si tu ne le fais pas en amont ? À quel moment tu le fais ? Dans les deux derniers mois de la saison.
Pourquoi pas un vrai mercato
En vélo, le mercato, en fait, il est sous-marin, j'ai bien compris. Voilà, ça se fait.
Le mercato n'est que l'officialisation du travail que tu as fait avant.
Oui, mais la différence,
c'est officiel. C'est officiel.
Mais peu importe, le travail, il est fait quand même en amont. Après, que tu l'annonces pas, ça soit autre chose.
Oui, mais en foot, le mercato, il y a deux phases. Il y a le mercato de décembre et le mercato de juin, entre guillemets. Et ça veut dire qu'au maximum, un joueur est impliqué dans un projet 3-4 mois. À partir du moment où il a fait son annonce, même si elle est très prématurée, jusqu'au moment où il part en rugby, ça peut être un an. C'est rare quand même.
Faut pas confondre deux choses en définitive. Parce que ce que tu dis là, c'est au foot, les gars, ils peuvent partir en janvier. Ils peuvent changer de club en janvier. Au rugby, quand tu te mets d'accord avec un club sur une promesse d'embauche, tu pars la saison d'après.
Oui.
Donc la différence, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système du foot te permet de quitter ton club. Ce qui, légalement parlant, est également vrai dans le rugby. Hein. Tu peux également.
Mais aujourd'hui, on l'a vu avec.
C'est beaucoup plus rare.
Mais on l'a vu avec le second de ligne, comment il s'appelle, de Bordeaux.
Wookie,
qui est signé dans la seconde. Quoi. Enfin, il a changé de club tout de suite.
En fin de saison.
Et Ficou en pleine saison.
Et Ficou en pleine saison.
Vous voyez ça aujourd'hui à travers votre prisme de il s'est fait ça en 15 secondes. Ça s'est pas fait en 15 secondes. Hein. Toutes ces discussions là, elles existaient depuis quelque temps. Donc c'est l'immédiateté de la perception de la personne qui est en face de ce marché là n'est absolument pas la même que lorsqu'on est derrière le rideau. Derrière le rideau, les discussions, que ce soit avec X, Y ou Z, elles se font pas en 48 heures. Tu décides pas de changer d'environnement en 48 heures. Et c'est pareil pour vous. Vous êtes journaliste à RMC, vous n'allez pas décider en 48 heures d'aller chez un concurrent.
On peut se faire dire
ou 48 heures.
Ça peut arriver.
Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose.
Tout dépend
ça,
de mon temps. Rugby aussi, tu même peux... en 24 heures.
Non, mais tu peux en rugby aussi, tu peux te faire virer en 48 heures.
Mais non, mais Miguel, moi, ce que je c'est pas un reproche que je fais, moi. C'est en fait, c'est que on perd un peu de l'affect qui fait le sel du rugby, quand même. Je trouve qu'aujourd'hui, on est plus dans un marché.
Comment tu veux dire l'amour du maillot n'existe plus oui, parce que tu peux changer de club.
Mais je suis un romantique.
Un combat d'arrière-garde que
mais
tu
oui,
mènes.
Non mais évidemment, je sais très bien, mais je trouve qu'on se rapproche trop du football. Voilà, c'est mon regret.
Bah, accroche ta ceinture, Denis. On est victime.
Oui, non mais c'est bien.
On est victime du système. On est victime du système dominant. Hein. Après, il y a deux différences fondamentales dans le rugby. C'est que le rugby, malgré ses valeurs universelles, n'est pas un sport universel. C'est-à-dire que si tu veux être professionnel dans le rugby en tant que joueur, c'est soit, je parle de l'hémisphère nord, c'est soit le Royaume-Uni, soit la France, un petit peu l'Italie. Au foot, tu peux jouer au Togo, en Argentine, en Belgique, n'importe où. Ce qui n'est pas le cas dans le rugby. Donc, si tu veux, ça limite quand même, je dirais, le marché du rugby. Et puis, quoi qu'on en dise, il n'y aura jamais, jamais, jamais autant d'argent dans le rugby que dans le foot. Donc, on parle de choses complètement différentes. C'est deux univers complètement différents.
Oui, mais là, je parle d'affect.
Mais tu as raison, Denis. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'affect est une composante du rugby, mais du rugby professionnel, elle l'est beaucoup moins. Parce qu'aujourd'hui, une carrière, c'est 8 ans, en moyenne, parce qu'aujourd'hui, la discipline est devenue un sport et le sport est devenu un métier. Donc à partir de là, effectivement, tu fais face à des enjeux qui sont différents de ceux qu'on a connus il y a une vingtaine d'années.
C'est un métier, un vrai métier aujourd'hui, tu as raison. Et malheureusement, parce que j'aime pas le mot métier pour le sport, mais malheureusement, c'est un métier.
Mais c'est pas un gros mot pour autant.
Je pense qu'il
faut faire la différence entre le rugby professionnel, qui est une entreprise de spectacle, et le rugby amateur, qui a pour moi des vertus éducationnelles. Voilà. À partir du moment où tu sais faire la différence entre les deux et que les deux ne se confondent pas, c'est-à-dire que trop souvent, je discute parfois avec des présidents de clubs amateurs et ils ont toujours, si tu veux, ce schéma de se dire on va faire comme le club de top 14, Et non, aujourd'hui, le rugby dans la cité, au-delà de l'entreprise de spectacle, a d'autres vertus que celle de vouloir faire du professionnalisme. Heureusement d'ailleurs. Et si on remonte à l'histoire du rugby, le rugby a été inventé par quelqu'un qui a utilisé le rugby comme un outil éducationnel pour former les jeunes classes dirigeantes anglaises. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Après, c'est devenu un sport, donc c'est devenu une industrie, l'industrie du sport. Et ce n'est pas un gros mot, c'est devenu un métier.
Oui, on a du mal à l'accepter, mais tu as raison.
L'évolution des choses. Alors Miguel, dans 10 mois débutera en France la Coupe du Monde, et dans le milieu du rugby, on se projette déjà sur l'après-Coupe du Monde. Hein. C'est vrai que là, c'est une période un peu particulière avant cette Coupe du Monde. Les gens sont installés dans leur sélection, on ne va pas prendre de risques à changer de pays. Mais certains ambitionnent déjà de venir en Europe, notamment du côté des All Blacks, des Springboks, certains envisagent de venir dans notre championnat. Aujourd'hui, il est toujours le plus attractif financièrement parlant. Tu parlais aussi du championnat anglais tout à l'heure, on a vu qu'il avait quand même quelques difficultés financières. Est-ce que ça renforce encore un peu plus le top 14, cette histoire-là ?
Alors, dans la mécanique aujourd'hui, c'est vrai que les années post-Coupe du Monde ont toujours eu cette vertu de faire venir des joueurs de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord. Aujourd'hui, c'est vrai que le top 14 est toujours aussi attractif, mais pour autant, une fois qu'on a dit ça, il y a deux phénomènes qui réduisent un peu le nombre de grandes stars du sud.
GIF et Salary Cap.
Le système des GIF, c'est GIF et Salary Cap que je mets les deux ensemble parce que c'est très franco-français. Et il y a un phénomène que l'on oublie, c'est le championnat japonais, qui aujourd'hui est 100 fois plus attractif que n'importe quel marché du rugby.
D'ailleurs, c'est quoi la différence, Miguel ? Le marché japonais, c'est quoi la différence entre le marché de européen ? Est-ce qu'il y a une grosse différence, oui, financièrement ?
Oui. C'est tu multiplies par 3.
C'est du simple au double,
tu multiplies par 3.
Ah oui, quand même.
Ils recrutent au Japon ou pas, Denis, tu penses ? Parce que
les consultants...
RMC en japonais, je sais pas comment on dit RMC en japonais.
Il fait pas mal de progrès en japonais, en plus, lors de la Coupe du Monde.
Kolochiawash.
Il est prêt.
Il connaissait un mot, il l'a même oublié, quand même.
Je l'ai oublié, oui.
Kolochiawash. Denis, je veux bien parler de toi au japonais, mais on n'en parle pas, d'accord ? Ça reste entre nous.
Non, ça reste entre nous.
On va pas faire d'annonce. Sinon, ton maillot qui est floqué RMC, ça va être compliqué.
Mais ça, dans 3 fois, c'est quand même...
Ah oui, c'est dingue. Alors donc, aujourd'hui, Miguel, ça veut dire que les stars de l'hémisphère sud sont de plus en plus tentés d'aller terminer leur carrière au Japon plutôt qu'en top 14. Quoi.
Moins de dureté sur le lycée, quoi.
Mais, même pas forcément terminé, puisque effectivement, on avait tendance à s'imaginer qu'à partir du moment où le Black ou le All Black ou l'Australien ou le Sud-Africain venait en Europe, il ne faisait plus partie des plans de son équipe nationale. Aujourd'hui, c'est absolument pas le cas, puisque je sais que le championnat, c'est de janvier à juin au Japon, enfin mai même, donc c'est beaucoup moins de matchs. Ils peuvent faire un aller-retour entre le Sud-Africain
oui, c'est moins loin, surtout.
Et le Japon. Alors, ouais, moins de décalage horaire. Côté, hein, mais il y a pas de décalage, il y a moins de décalage horaire. Mais oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les internationaux Black ou autres peuvent très bien faire 6 mois au Japon, revenir faire le Super Rugby et vice versa. Et d'ailleurs, des accords qui ont été passés, ce qui est passé un peu sous silence entre les fédés australiennes, NZ, et, alors moins sur l'Afrique du Sud, où effectivement. Ça permettait, si vous voulez, aux gros joueurs d'aller au Japon, d'avoir un beau contrat et quelque part, par rebond, par effet de capillarité, avoir moins à dépenser quand tu es une franchise NZ, quoi. Donc, le vrai marché de demain aujourd'hui et notre vrai concurrent en Europe, et j'inclus les Anglais là-dessus, enfin le Royaume-Uni, c'est le Japon. Aujourd'hui, on n'a pas de concurrence en France. On n'a pas de concurrence sur l'Europe. Les Anglais sont. Le salary cap fonctionne parce qu'on n'a pas de concurrence. Mais si demain l'économie anglaise revient, et on pourra en reparler un peu plus tard, et que les Japonais commencent à s'intéresser aux joueurs français, ce qu'ils commencent déjà à faire hein, régulièrement, nous sommes sollicités par des franchises japonaises sur des internationaux. Alors on leur explique le calendrier est complètement en collision avec le calendrier japonais, mais. On n'est pas à l'abri que demain, effectivement, à l'instar de ce que font nos amis NZ, par exemple, ben, qu'un joueur international
oui, mais français... est-ce que l'international français pourra jouer l'équipe de France en étant au Japon ? Non.
Alors, juridiquement, oui. Maintenant, est-ce que tu peux libérer 2 mois ou 1 mois et demi un joueur qui va faire le 6 Nations en plein milieu d'une saison qui a...
Il n'y a pas beaucoup de matchs en plus. Match
ou un truc. Non, voilà, mais après... Ça peut concerner des joueurs qui sont
en carrière, une carrière internationale terminée, qui pourrait tenter d'aller prendre un dernier.
À l'exemple de Yohan Maestri. À l'exemple de Yohan Maestri.
Oui, mais lui, il a fait en seconde division, non ? Il n'est pas en première division, il me semble.
Oui, mais je peux te s'assurer que son contrat en deuxième division
plus intéressant
ferait pas lire certains clubs top 14. Hein.
C'est incroyable.
Il y a toujours eu ce fantasme, que ce soit le Japon, il y a eu les États-Unis, où on a vu un championnat inscrit il y a 3 ans qui s'est malheureusement un peu arrêté avec le Covid et qui tente de repartir, avec des grands noms, Adam Ashley Cooper, Matt Guiteau, qui sont allés faire des piges là-bas. Il y a toujours le fantasme un peu de l'Eldorado lointain, où on va payer les joueurs des fortunes pour jouer de matchs. Je suis pas certain que le système japonais fonctionne, hein, puisque bah, Miguel l'a dit, il y a des partenariats qui existent avec notamment les franchises néo-zélandaises qui libèrent leurs meilleurs éléments pour une période de 6 mois. La saison japonaise est très dense parce qu'il y a très peu de matchs. Au final, je crois qu'ils disputent 16 ou 18 matchs maximum et c'est ils ne les font pas tous. Et idem pour les Sud-Africains, on a vu des grands noms sud-africains, on a vu Rosso, on a vu Matt Field aller faire des piges au Japon. Mais je vois pas d'autres systèmes fonctionner. Hein. Les États-Unis, ça a assez rapidement périclité. La Ligue Celt, bah, vu leur mode de fonctionnement, ça paraît difficile d'aller prendre de l'argent là-bas. Le système anglais se casse la figure.
Il n'y a que le Japon.
Aujourd'hui,
je mettrais un bémol sur le système anglais, parce qu'on dit qu'il se casse la figure, parce qu'on voit ça.
Il y a quelques clubs qui se cassent la figure.
Des Wasps et des Worcesters. Oui, voilà. Après, il y a des clubs qui sont très, très solides. Et en fait, pourquoi ces deux clubs se sont cassés la figure, c'est pour des raisons.
De mauvaise gestion.
D'économie, ouais, de gestion un peu hasardeuse. Mais
Le système
anglais fonctionne bien.
Alors, Miguel, quelles seront les prochaines stars de l'hémisphère sud à venir en Europe ? Est-ce que tu as des noms à nous livrer ? Est-ce que les dirigeants de clubs, les managers, te sollicitent déjà pour aller recruter un All Black, un Springboks qui pourrait être là après la Coupe du Monde ?
Attends, vas-y, j'ouvre mon document Word, Miguel. Vas-y, tu peux y aller.
Alors, je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir, messieurs. Je suis évidemment assujetti au secret professionnel, donc je ne peux donner absolument aucun nom. Mais répondre à votre question, oui. Mais oui, c'est l'équivalent du off quand tu parles avec un journaliste, tu vois.
Ah. À peu près,
tu vois la notion.
Non, mais là, on est qu'entre nous. Il n'y
a personne qui nous écoute. T'inquiète, vas-y.
C'est comme du off.
Mais, c'est pareil, on est comme au bar, on est entre nous, tranquille. Voilà. On peut discuter.
Mais oui. Pour répondre à ta question, Christophe, oui, évidemment, nous sommes sollicités, mais toute la profession et ceux qui ont des relations et des connexions avec l'hémisphère sud, on est sollicités pour les internationaux, NZ, Australiens ou Sud-Af, évidemment.
Et tu te déplaces, toi, là-bas, tu vas rencontrer ces gens-là, les joueurs de l'hémisphère sud. Comment nous des relations avec ces joueurs-là qui n'évoluent pas évidemment pour l'instant en Europe, quelles sont la nature de tes relations avec les joueurs de l'hémisphère sud?
Alors, je suis un cas particulier parce que je travaille pour un groupe qui s'appelle CSM et on a des bureaux au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Afrique du Sud. Donc on connaît les joueurs qui potentiellement souhaitent venir en Europe. D'abord parce que j'ai des collègues qui sont sur place et qui connaissent ces joueurs-là. On discute évidemment, alors principalement en visio, on a pris de bonnes habitudes depuis le Covid et on discute beaucoup avec ces joueurs-là. Je me déplace moins ou mes collègues ou associés se déplacent beaucoup moins puisqu'on n'a pas besoin matériellement de le faire dans la mesure où on a des gens sur place. Mais j'imagine que mes confrères qui n'ont pas cette facilité-là ou cette configuration entrepreneuriale doit se déplacer.
C'est une véritable multinationale. Alors, on a bien compris, Miguel ne veut rien lâcher. Heureusement, Wilfried a plein d'infos. Wilfried, quels sont les joueurs qui vont venir enrichir notre championnat après la Coupe du Monde? Les All Blacks, les Springboks, les Wallabies. Vas-y, donne-nous des noms.
Bon, il y a 2-3 cadres, on va dire, on va garder le conditionnel, hein, qui pourrait, devrait rejoindre le top 14. Le dossier le plus chaud, peut-être le plus abouti, ça semble être celui de l'emblématique capitaine des champions du monde Springboks, Siya Kolisi, qui n'a pas profité de la tournée de novembre seulement pour faire du tourisme. Le troisième ligne des Sharks, il est plus que pressenti pour porter les couleurs du Racing la saison prochaine. Et ce serait une sacrée recrue, hein, par son potentiel ou son expérience, mais aussi son image. Il y a un nom qui excite beaucoup de monde aussi, qui est revenu dernièrement, son nom confrères du middle qui l'ont révélé, que Semiradradra pourrait revenir en France et particulièrement du côté de l'UBB, son ancien club qui aimerait le faire revenir. Radradra n'avait pas joué depuis le mois d'avril à cause d'une blessure au genou. Il a fait son retour avec Bristol ce week-end, qui est lanterne rouge championnat anglais face à Leicester. Il a marqué un essai et quand il est en pleine forme, c'est un extraterrestre sur le terrain. Aucun manager, je pense, et pas Yannick Brul, futur de Bordeaux, à mon avis, ne refuserait un tel joueur. Autre fantasme et non des moindres, et là peut-être que Miguel pourra nous renseigner ou pas, c'est Boden Barrett, l'ex-meilleur joueur du monde, demi d'ouverture arrière des All Blacks, qui était pressenti également au Racing, mais on a senti un petit coup de frein dernièrement. Il y a eu l'évocation d'une prolongation de l'Écossais Finn Russell. Faut dire que Barrett, c'est cher, hein, c'est très cher, et comme il y a le salary cap à la baisse, il faut parfois faire rentrer une citerne dans un dé à coudre, si vous me permettez l'image. Notre invité pourrait nous renseigner ou pas, on verra. À Montpellier, il y a Sam Simons, le formidable troisième ligne centre d'Exeter et de l'Angleterre, qui va remplacer Zach Mercer. C'est, bon, c'est un sacré coup, hein. C'est un très bon remplacement.
On se souvient,
hein,
que Philippe l'avait recruté en commentant la premiership il y a quelques années sur RMC.
Mercer.
Simons, c'est un sacré remplacement. Il y a un autre anglais, il y a le talonneur Luke Kowandiki, il y a son nom qui se murmure aussi à Montpellier. Et puis, chose non négligeable, il y a aussi des dossiers français. Où joueront les Penaud, Jalibert, Lebel, Awas? Voilà des questions encore en suspens.
Très bien. Il y a un fond de vérité dans tout ce que nous a dit Wilfried, ou c'est du fantasme pur et dur?
Oui, non, Miguel.
Oh, comment je vais m'en sortir de celle-là?
Dis-nous tout. Et manque pas de langue de bois, vas-y.
Dis-moi, manque pas, je rigole.
Il y a.
C'est possible.
C'est jouable. C'est jouable. C'est jouable.
C'est le meilleur jeu du ni oui ni non avec les agents. Oui, peut-être. C'est possible.
C'est jouable.
Denis, est-ce que ça t'excite?
Ouais, vas-y, Miguel. Les clubs ont. Les noms qui ont été évoqués ont été effectivement contactés par des clubs du top 14. Maintenant, je peux absolument pas, pour des raisons évidentes, vous en donner plus de détails, quoi.
Alors, Denis, est-ce que ça t'excite, toi, ça t'exciterait de voir arriver des Kolisi, revoir Radradra évoluer dans le top 14, joueur exceptionnel Boden Barrett, Pierre, il est quand même un peu amoché, quand même, Boden Barrett. Hein.
Malheureusement pour lui, Boden Barrett a connu beaucoup de problèmes avec des commotions, a été pas mal absent à cause de ça. Et le problème se pose aujourd'hui en Nouvelle-Zélande, en tout cas chez les Blacks, moins en franchise, mais chez les Blacks, à savoir à quel poste le faire jouer. Puisque malheureusement, le poste de 10, ça paraît un peu compliqué aujourd'hui pour lui, parce que il peut plus défendre en tant que premier défenseur. On est obligé d'adapter un système avec lui, et le système Black fait que le 10 ne joue pas dans le troisième rideau comme chez nous, et il est titulaire à l'arrière, et c'est pas là où il est le plus fort chez les Blacks. Alors il y a quand même quelques doutes qui existent, sans vouloir abîmer la réputation d'un joueur, parce qu'on sait qu'il est en train de négocier. Je sais que la question se pose en Nouvelle-Zélande sur comment l'utiliser au mieux et comment l'utiliser tout court. Alors après, peut-être que ça fera ça ne posera aucun problème à un club français, et peut-être que ça fera comme Pat Lambi qui est venu en France et qui malheureusement a dû arrêter sa carrière assez rapidement pour des problèmes de commotion. C'est un risque à prendre pour un club, peut-être que c'est un risque formidable parce que c'est un joueur formidable, et peut-être que c'est un risque un peu démesuré parce que ça coûte cher.
Non mais après il faut pas se mentir, la venue de ces joueurs là c'est un plus pour le top 14 évidemment. Après leur rentabilité en tant que joueur c'est une autre question, parce que c'est vrai que des joueurs comme lui, eh ben, ils arrivent usés, ils arrivent fatigués, tu sais pas quel état d'esprit il va avoir, parce que bon, c'est des joueurs parfois c'est tout bon ou tout mauvais, on a plein d'exemples par rapport à ça. Mais après un Colizzi, oui, un Colizzi, c'est au niveau de l'image, au niveau de la mentalité du personnage, c'est extraordinaire, c'est fabuleux.
Lequel tu recruterais chez les Barbarians là,
Colizzi,
ouais, c'est celui qui te fait le plus fantasmer.
Quelle histoire, ouais. C'est,
Non mais après, globalement, les clubs européens, qu'ils soient français ou du Royaume-Uni, sont quand même très très pointu sur l'état physique, voire psychologique des joueurs qu'ils veulent faire venir pour les raisons qui ont été évoquées. C'est-à-dire que c'est quand même des investissements importants. Donc, globalement, lorsque les clubs français ou les clubs britanniques décident, jettent leur dévolu sur un joueur, sur une star sudiste, ils ont une radio très précise de
son état. Mais comme dit Pierre, quand même, il y a toujours un risque, Miguel. Il y a toujours un risque par rapport à ces joueurs-là.
Le recrutement, quel qu'il soit, il est risqué, mais évidemment, à la dimension de l'investissement que tu y mets, effectivement. Mais aujourd'hui, que ce soit Boden Barrett, il n'y a pas un club en France et en Angleterre, et au Royaume-Uni qui le refuserait. Hein.
Bon, alors, Jalibert, alors, il va où?
Ça y est, là t'attaques les dossiers.
À ma connaissance, il est sous contrat jusqu'en 2025.
Bon, oui. C'est vrai que c'est utile dans le rugby maintenant, parce qu'on ne peut pas racheter les contrats.
Et pourquoi on ne peut pas les racheter?
Mais si, bien sûr.
Tout le monde le fait. Ouais, donc, on va en parler tout à l'heure. Ouais. On va d'abord évoquons, Miguel, avec toi, le marché. Je continue sur le marché des stars étrangères, qui s'est quand même réduit avec la réforme des GIF. On rappelle qu'il faut aujourd'hui, pour toute formation évoluant en top 14, une moyenne de 16 GIF, je crois, par feuille de match. Est-ce que ça
Christophe, ouais. Les GIF, c'est 3 ans dans un centre de formation des joueurs passés.
C'est pas forcément
3 ans
des joueurs
dans un centre
français,
de formation agréé. Non, ça peut être un Fidjien, mais qui a passé 3 ans dans un centre de formation agréé ou 5 ans au niveau formé, au niveau amateur ou chez les jeunes, 5 ans sur le territoire français.
Licencié FFR, en fait.
Licencié FFR, ouais. Voilà, c'est un GIF, quoi. C'est pour favoriser la formation de joueurs français, mais c'est sûr qu'on a fait des dérogations en recrutant certains jeunes Fidjiens, des choses comme ça.
Ouais, de joueurs en France, pas de joueurs français, puisque légalement, on
peut
pas
faire une distinction
liée sur la nationalité.
Oui, parce qu'autrement, on se mettra en désaccord avec Bruxelles.
Christophe, pour faire le vieux grognard, on avait eu cette discussion lors d'une émission déjà à RMC il y a quelques années avec Pierre-Yves Revol quand il a instauré le système des GIF. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais dit la seule dérive que l'on va avoir, c'est qu'on va avoir, à l'instar du foot avec des joueurs africains ou des joueurs, on va avoir ce qu'on appelle des Fidjif, des Sudaves.
Aller chercher des Fidjiens.
Non, mais c'est vrai. Et voilà, très jeunes, les faire venir très jeunes et les former en France. Ouais, exactement. Type Raqqa, type etc. etc.
Ouais. Et ça, c'est...
Ça avait été un drame qui avait été dénoncé. Oui, bien sûr. Et c'est drôle parce que bon, Miguel est le patron du syndicat des agents. Et
président,
c'est
président, patron, c'est autre chose.
Oui, président, pardon.
En fait, on va l'appeler président.
Oui, président. Ouais, président. En fait, c'est assez drôle parce que j'avais eu cette discussion avec des agents parce qu'il y avait eu des dénonciations qui étaient justifiées. Le fait qu'on allait chercher en charter des gamins fidjiens, samoans, tongiens ou des îles globalement, on les faisait venir. Venir en France et arriver sur le tarmac à Toulouse ou ailleurs, on leur disait bon, toi tu vas à Albi, toi tu vas à tel endroit, toi tu vas à tel endroit. Sur la masse, certains agents avaient ces pratiques-là, malheureusement. Sur la masse, il y en avait peut-être 2 ou 3 qui réussissaient et on mettait 10 gamins dans la nature qui n'avaient aucun code, aucune éducation vis-à-vis de tout ça.
Je vais mettre un bémol là-dessus parce que alors je ne sais pas qui a fait ça, honnêtement.
C'est ça que je voulais dire, c'est que c'est jamais la faute de personne.
Non, mais il n'y a jamais eu de charter. Aujourd'hui, il y a des clubs qui ont instauré des relations avec des clubs dans les îles, que ce soit au Fidji, au Samoan, etc. Et ils travaillent de concert.
Non, mais Clermont et Toulouse, par exemple, oui.
Un ou deux, typiquement. Mais aujourd'hui, faire les charters, etc. Non, là, c'est très fortement...
Exagéré.
Moi, ça n'existe pas. Ouais, j'ai jamais eu vent de quoi que ce soit. Après, qu'il y ait eu des échecs, parce que... Il faut bien comprendre qu'un Fidjien, lorsqu'il débarque en Europe, c'est l'équivalent, c'est nous qui débarquons sur Mars, quoi. C'est un autre monde. Donc forcément, il y a un risque d'échec qui non pas sur le rugby, mais sur l'à côté du rugby, sur les aspects sociétaux, etc. Évidemment, mais on fait pas la traite des Fidjiens non plus. Enfin, ce que tu viens de décrire là, c'est quand même très très. Enfin, moi, ça n'existe pas. Honnêtement, j'ai pas vu de charter débarquer.
C'est pour diffamation d'ailleurs. Comme ça.
Non, mais par exemple, c'est traité dans des. Par exemple, Mercenaires, qui est un film inspiré d'une histoire vraie, c'est cette histoire-là. C'est-à-dire que c'est des cas qui ont existé avec des joueurs Fidjiens qui débarquent par hasard ou en tout cas sans vraiment le vouloir dans des clubs de Fédéral 1 ou Fédéral 2 qui sont payés peu. C'est des situations humaines qui existent.
Bah ça a existé, mais aujourd'hui c'est de moins en moins vrai.
Oui, bien sûr, non, mais c'est pour ça que je te dis, ça a existé, et quand j'en ai parlé des agents,
ça peut exister.
Ouais. C'est marginal, je dis pas que c'est la norme, mais ça a existé, et quand j'en parle à des agents, eux ne le font jamais, c'est toujours l'autre.
Miguel, t'inquiète pas, on coupera en montage.
Alors, pour en revenir à cette réforme des gifs, bon, évidemment, il y a des dérives comme dans toute règle. On dit qu'elle est quand même à l'origine du renouveau de l'équipe de France. Je voudrais avoir ton avis là-dessus, Denis. Est-ce que tu penses que justement, le fait d'avoir de plus en plus de joueurs formés dans les clubs français, qui évoluent finalement dans ces clubs, a permis aujourd'hui d'avoir une génération d'or?
Ça vient d'ailleurs, le GIFS qui avait pris cette décision-là.
Paul Gauze avec Pierre-Yves Revol.
C'est la Ligue. C'est Pierre-Yves Revol qui l'a instauré. Ouais, c'est Pierre-Yves Revol.
Ça a été la plus belle règle qui a été instaurée de ces dernières années. C'est vrai que ça a permis de voir l'émergence de talents français qui, à l'époque, souvenez-vous, quand il n'y avait pas cette règle-là, étaient cantonnés à être remplaçants, voire ne jouent jamais. Quoi. Donc c'est vrai que ça a permis à l'équipe de France de devenir ce qu'elle est aujourd'hui.
Mm-hmm. Alors, Ça a atténué un phénomène, c'est que moi je me souviens, il y a une dizaine d'années, je recevais un coup de téléphone d'un manager qui me disait, voilà, je viens de péter un pilier droit, ce qu'on veut, est-ce que tu pourrais me mettre en relation avec tel ou tel joueur de... Et ma première question, c'est, mais est-ce que chez les espoirs, t'as pas quelqu'un qui pourrait effectivement pallier cette blessure? Et 9 fois sur 10... Parce que la pression de toutes les semaines, parce qu'aujourd'hui le championnat des espoirs est un peu pas assez visible en tout cas, la réponse était non, j'ai personne et puis ça m'intéresse pas forcément.
Faire un Georgien, pas assez visible, ouais. Et pas assez relevé peut-être aussi le championnat espoir.
Ouais, enfin, je pense que, après il y a des idées qui fusent. Hein. Moi je suis assez partisan pour qu'on fasse un championnat à l'identique entre le top 14 et les catégories des moins de 22, typiquement, ou avec un match la veille, avec vendre à Canal+ aussi des droits pour qu'ils puissent diffuser. Enfin bon, c'est pas l'objet de la conversation là, mais aujourd'hui, il faut rendre beaucoup plus visible effectivement la catégorie des moins de 22 ou des espoirs. Ça c'est un premier point parce que il y a un vrai potentiel. C'est vrai que le GIF aujourd'hui, la contrainte administrative fait que maintenant on est obligé de regarder ce que tu as chez les jeunes. Ça a eu un effet corollaire un peu négatif, c'est que ça a créé ce qu'on appelle une bulle spéculative. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu crées une contrainte sur un marché économique qui n'est pas une contrainte liée à la performance, mais liée à une réglementation administrative, tu as poussé certains clubs à faire de la surenchère sur des joueurs, non pas par rapport à leur performance, mais par rapport à une contrainte pour laquelle tu vas te pénaliser si tu ne satisfais pas. Ouais. Donc, il y a eu... Voilà, ça se... diminue un petit peu maintenant, mais cette bulle spéculative existe toujours. Et encore une fois, ce qui est dommage, c'est qu'on est quand même dans un monde de performance et que ces choix-là, ou ces décisions-là par certains clubs de faire de la surenchère, elle est liée non pas à la performance du joueur, mais parce qu'ils sont contraints administrativement.
Non, mais ça veut dire qu'on prend un gif parce qu'on a besoin d'un gif, c'est ça l'histoire.
Exactement.
Ce qui n'est pas normal en soi, quoi, c'est pas logique.
Voilà. Du coup, en revanche, c'est vrai qu'on a eu une émergence de jeunes joueurs qui. Plus facilement, quelque part, ont accès à l'équipe première.
Ouais. Mais en plus, au-delà de ce qu'on dit, il y a quand même le fait aussi que l'émulation au niveau des joueurs. C'est-à-dire qu'un joueur, aujourd'hui, il croit davantage en son talent que par le passé, où il était relégué sur le banc systématiquement. Aujourd'hui, un jeune, il a l'espoir d'avoir sa chance et de devenir voir un titulaire, voir jouer en équipe de France. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans.
Ouais. Il y a un deuxième phénomène, Denis, qui est apparu depuis quelques années, c'est le système des prêts également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment les clubs de top 14, n'hésitent pas à prêter leurs plus talentueux jeunes dans des clubs de Pro D2, voire de temps en temps des clubs de top 14, pour justement que ces mômes-là puissent s'aguerrir au plus haut niveau, rugbystiquement parlant. Ouais. Et c'est vrai, c'est deux phénomènes.
Thomas Ramos en est l'exemple le plus frappant.
Ouais, hein. Ouais. Thomas, bien sûr,
mais il y a plein de joueurs. D'ailleurs, je trouve que ça devrait l'utiliser davantage encore. J'en parlais avec Christian Labitte.
Alors aujourd'hui, c'est limité.
Par exemple, lui, il dit il ferait quand même pas les
prêtez-moi
clubs.
Des joueurs.
Non, mais c'est pas prêtez-moi, parce que lui, il prend un joueur, mais il le rend quand le club en a besoin. Donc, il le prend pour 2-3 matchs, voire 4 mois, mais après, il est obligé de le rendre. Mais au moins, ça permet aux joueurs de jouer, surtout. C'est ça, l'histoire. Enfin, il me semble.
Alors, administrativement, aujourd'hui, les clubs sont limités à 6 prêts. Voilà. Alors, peut-être qu'il faudrait faire sauter cette barrière. Dans la mesure où, effectivement, on ne met pas l'accent sur la compétition des jeunes. Parce que moi, je crois énormément à l'exposition du championnat des jeunes, parce que ça va forcément créer, de l'émulation, et deux, à partir du moment où tu as un œil sur quelque chose de compétitif, ça peut porter ses fruits.
Mmh. Alors, la conséquence...
Je me présente à la direction générale de la Ligue demain. Hein,
si... Ah bah, on a bien compris, il est en campagne électorale. Il a plein d'idées, plein de réformes possibles dans
Ah, j'en ai même sur le développé dans le Nord, le rugby d'ailleurs.
Ah, ben, voilà une bonne idée, là aussi. Ouais. Alors, Miguel, la conséquence, tu l'as dit, de cette réforme et le renouveau du rugby français ont eu donc comme conséquence de faire exploser le prix des internationaux français, dont certains s'arrachent à prix d'or. Celui dont on parle énormément en ce moment, évidemment, tu sais que je vais venir là-dessus, c'est Damien Penaud, le meilleur joueur français de la tournée de novembre. On sait qu'il est en fin de contrat avec Clermont. Son nom est annoncé un peu partout. Alors, évidemment, Clermont veut le garder, mais on parle de pistes en Angleterre, partout, ouais. On parle de Toulouse aussi, hein, Wilfried. Bref, ce garçon est annoncé partout. Il est vraiment aujourd'hui celui que tout le monde veut s'arracher. Et je crois que tu es son agent, Miguel. C'est bien ça?
Alors, je suis mandaté par les clubs, effectivement, pour utiliser mes relations avec Damien Penaud, dont je connais également le papa depuis très très longtemps.
Oui, voilà.
Damien, il est en face d'un choix, effectivement, rester à Clermont ou partir. L'alternative est relativement simple. On a eu, beaucoup de clubs l'ont contacté pour s'attacher de ses services. Damien s'est imposé un timing, c'est-à-dire que pour l'instant, il rencontre, il discute avec pas mal de clubs. Il n'a absolument pas pris sa décision, évidemment. Il n'a pas non plus, pour l'instant, il est relativement neutre sur les projets qui lui sont présentés.
C'est-à-dire qu'il te laisse gérer la situation et il décidera en dernier recours. Comment ça se passe, des négociations entre lui, toi et les clubs qui veulent s'attacher à ses services? C'est toi qui gère tout ça et ensuite il prendra sa décision lui tout seul?
Bah, je fais mon métier d'intermédiaire, c'est-à-dire que d'intermédiation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les projets sportifs qui souhaitent s'attacher les services de Damien, soit le contact, soit me contact, et il y a une rencontre qui se fait, il y a des échanges qui se font, qui sont exclusivement centrés sur le projet, évidemment, sur l'interaction et l'affect qu'il peut éventuellement avoir avec son N+1, c'est-à-dire le manager ou le président. Les aspects financiers concernant Damien sont relégués. C'est pas le critère de choix, en définitive.
Non, mais j'allais te demander, justement, c'est pas le critère de choix, c'est plutôt le fait de gagner des titres, d'aller chercher des titres ailleurs, dans un club qui...
Ouais, mais c'est lié quand même, Miguel, parce que dans le salary cap, il prendra une place, il vient pas pour gratuitement non plus, même si c'est peut-être pas le premier critère, et donc ça peut jouer dans certains effectifs.
Ah, bah ça joue, quel que soit le joueur que tu décides de signer, ça joue dans ton effectif, de toute façon. Après, évidemment, Damien Penaud, qui est considéré comme un des meilleurs au monde à son poste, tu te doutes bien que l'enveloppe financière est significative. Pour autant, ce n'est absolument pas le critère de décision de Damien. Parce que, pour être très clair avec vous, je pense que tous les projets qui s'intéressent aujourd'hui à Damien sont à peu près... au même niveau, donc le débat il n'est pas là, le débat il est comment aujourd'hui je peux non pas garantir, parce qu'il n'y a aucune garantie dans le monde du sport, et puis ce sport en plus un ballon qui est ovale, qui a des rebonds parfois un peu bizarres,
tu dis au même niveau, est possible donc, si on dit allez, on ne va pas te demander, tu ne nous as pas dit beaucoup de choses, on ne va pas te demander beaucoup, mais alors on a parlé de Clermont, donc de l'UBB, La Rochelle et Toulouse. Ces quatre clubs, c'est la seule question à laquelle tu vas nous répondre précisément, sinon ce sera de la torture.
Ça prend les moyens de vous faire parler.
Ces quatre clubs peuvent accueillir Damien Penaud au moment où on se parle.
Ces quatre clubs, alors je vais te répondre différemment. Ces quatre clubs savent exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir l'attirer.
Ouais. D'ailleurs, Toulouse, ils seraient obligés de se séparer de quelques joueurs. Ils savent faire.
Bah, je ne gère pas les finances de Toulouse, mais en tout cas, ils savent aujourd'hui à quelle hauteur il faut faire
ce qu'il faut faire pour attirer Damien. Mmh.
En tout cas, Damien Penaud va aller au bout de son contrat, ce qui n'est pas le cas de tous les joueurs actuellement, puisque certains finalement se font racheter leur contrat par des clubs. Avec Damien, là, on est sûr qu'il va aller jusqu'au bout, puisque c'est la saison prochaine. Wilfried, on va voir avec toi quelles sont les règles en matière de mutation ou de transfert. Quand est-ce qu'on peut changer de club? À quel moment peut-on l'annoncer? Y a-t-il des exceptions à la règle du genre du joker médical? Bref, tu vas tout nous dire justement de la façon de faire et de toutes ces règles en vigueur actuellement.
Oui, alors si on veut évacuer le joker médical, il existe hein, toujours, c'est des absences de plus de 3 mois sur blessure, et ce jusqu'au 19 mars pour les équipes, et même le recrutement de 2 joueurs supplémentaires par club par saison pour ajuster son effectif jusqu'à fin janvier. On a vu des joueurs des Wasps justement, le club anglais qui a mis la clé sous la porte, qui ont débarqué, Robson à Pau, les frangins Willis l'un à l'UBB, l'autre à Toulouse, ou Brad Shields à Perpignan. Mais concernant les transferts, comme tu dis, traditionnellement dans le rugby, on changeait de club avant... dans la majorité qu'à la fin de son contrat. On appelait ça les mutations. Les transferts n'existaient pas. Miguel va peut-être dire différemment, mais dans la majorité, ouais, n'existait pas auparavant. De mémoire, alors j'ai un peu échangé avant le podcast avec Miguel, c'est vrai que le plus marquant, c'était Benjamin Fall. Avec à Bayonne, recruté par le Racing pour une somme qu'on jugeait énorme à l'époque, on parlait de 500 000 euros. Mais petit à petit, on s'est mis à libérer des joueurs, des fois, d'un commun accord entre les deux parties, ou comme pour Fall, à racheter des contrats et donc à parler de transfert. On l'a déjà évoqué, Ficou du Stade Français au Racing, en pleine fin de saison en plus, Colby de Toulouse à Toulon, Woki était encore sous contrat quand il est parti de l'UBB au Racing, là c'était en fin de saison. Mais voilà, des changements de maillot qui ont un peu bousculé, pour pas dire heurté, hein, le monde du rugby, mais qui sont devenus monnaie courante, sans jeu de mots, en sachant que le monde du rachat du contrat alimente le salary cap, en fait, qui est le montant à ne pas dépasser avec sa masse salariale et qui est à la baisse. Hein. On était à 11,3 millions d'euros il y a 2 ans, ce sera plus que 10 millions d'euros en 24-25 pour la totalité de la masse salariale. Donc ça met un frein aussi à ce process. Et pour ce qui est de l'annonce, normalement, ça se passe normalement en juin, au moment de l'homologation des contrats, Miguel l'a dit. Mais on l'a vu pas plus tard que la semaine dernière, et alors ça, j'ai pas réussi encore à savoir pourquoi. Bayonne a annoncé la signature d'Arthur Ituria, qui est en fin de contrat à Clermont. Ils l'ont annoncé officiellement. Ituria, qui a encore 6 mois à faire avec son club actuel. Pour moi, c'était plutôt rare. Ça,
ils sont en contravention avec la loi, là, Miguel Bayonne, en annonçant.
Non, absolument pas. On parlait de Pierre-Yves Revol tout à l'heure, qui avait instauré, souvenez-vous, à une époque, le fait de ne pas pouvoir annoncer la signature, la mutation d'un joueur, d'un effectif. Je crois qu'à l'époque, c'était février, et puis c'était injouable, ça ne tenait pas. Aujourd'hui, vous pouvez annoncer ce que vous voulez, quand vous voulez. Il n'y a pas de règlement là-dessus. Juste par rapport à l'intervention de Wilfried. Aujourd'hui, effectivement, là, on met le prisme sur les mutations qui se font avant la fin de contrat. C'est-à-dire que le joueur a 3 ans de contrat, il décide de partir au bout de la deuxième. Ça représente un pourcentage infime par rapport aux 500 mutations ou aux 300 mutations, et j'y inclus les renouvellements, qui ont lieu sur le marché du rugby. C'est-à-dire qu'on parle de très peu de cas, finalement. Donc, on n'est pas quand même dans une vague déferlante de mutations avant la fin des contrats. Ça, c'est... Ouais, alors transfert, mutation.
Il veut pas, c'est un gros mot.
C'est pour que les gens comprennent. La mutation, c'est à la fin du contrat, on va dire, pour nous, pour qu'on se comprenne. Et le transfert, c'est un peu un rachat de contrat en cours, quoi.
Ouais, en fait, on parle de la même chose. On met juste un mot différent, mais c'est exactement la même chose. La mutation, tu peux aussi parler de mutation rémunérée, avec une indemnité. Dans le cas de Benjamin Fall, c'était un peu particulier. C'est-à-dire que Benjamin, dans son contrat, avait une clause libératoire financière. Voilà, ce qu'ont certains clubs d'ailleurs. C'est-à-dire que si tu décides de partir à la deuxième année, tu peux éventuellement prévoir une enveloppe pour le départ. C'est pas vraiment une mutation au transfert, comme on veut l'appeler, type rugby, où tu as une négociation de gré à gré, tu vois, entre deux clubs. Je prends l'exemple de Louis Picamol, entre Northampton à l'époque et Montpellier, il y a eu une négociation de gré à gré pour le faire venir à l'issue de sa première saison. Donc... Il y a ce qu'il y a dans les clauses libératoires dans le contrat, et il y a les négociations et là c'est purement une compensation par rapport à la valeur supposée du joueur, etc., etc. Donc c'est deux choses complètement différentes.
Miguel, est-ce que tu penses qu'on va de plus en plus se diriger vers un système du genre football, et qu'il y aura de plus en plus de transferts, des rachats de contrats comme ça avant la fin d'un contrat? Est-ce qu'on va se diriger vers ça? Et est-ce que vous avez envie, dans le monde du rugby, que ce genre de choses soit la pratique courante dans les années à venir?
Alors, je vais peut-être tordre le cou à une idée reçue, mais les mutations ou les transferts avant, ça a toujours existé. Enfin, moi, ça fait 22 ans que je suis dans le milieu du rugby professionnel. J'en ai toujours. On en parlait moins, tout simplement, mais ça a toujours existé. Et encore une fois, ça ne concernait que 5% des joueurs, en définitive. Ce qui est sûr, et Wilfried disait que l'histoire du salary cap par rapport aux indemnités de transfert, aujourd'hui, elles ne sont pas comptabilisées dans le salary cap. Il y a des présidents aujourd'hui, notamment au niveau de la Ligue, réfléchissent à un système où effectivement, jusqu'à un certain montant, ce n'est pas comptabilisé dans le salary cap. Au-delà d'un certain montant, ce qui dépasse entrerait dans le salary cap. Voilà. C'est, je crois que ce n'est pas encore acté, je crois que c'est en ce moment les discussions. Mais tout ça pour limiter justement cette tendance. Mais cette tendance, elle est... Alors peut-être que c'est du fait de mon métier, etc. Mais objectivement, ce n'est pas plus qu'avant.
D'accord.
Pas plus qu'avant. Sauf qu'on en parle. On en parle. Le rugby est devenu de plus en plus médiatique. Mais
c'est pas les mêmes sommes non plus.
Non,
ouais. C'est pas les mêmes sommes.
Ouais, c'est l'économie du rugby n'est plus la même, hein.
Ouais, mais c'est pas encore celle du football. Très bien, la discussion est passionnante. On pourrait encore parler pendant des heures et des heures. Malheureusement, nous sommes tenus à des règles. Et oui, on nous attend. On va nous piquer le studio.
C'est la queue.
Il y a les footballeurs qui arrivent. Oui. Les footballeurs, ils sont là tout le temps. Merci Miguel en tous les cas. C'est passionnant de discuter avec toi. Et on aura l'occasion d'en reparler. Si tu as des petites infos sur Damien Penaud, évidemment, ouais, tu es bienvenu.
Tu nous rappelles pour Barrett Penaud dans l'après-midi, comme on s'est dit.
En off, comme on a dit.
Merci Miguel Fernandez. Merci,
merci à vous.
À tous les poteaux. Et voilà, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Entre les poteaux.
Et abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Vous
c'est Wilfried qui le dit.
Oui,
ça.
Mais là, il est parti. Là,
il
Wilfried.
Est parti déjà.
Il est parti gratter des infos avec Miguel. Non, mais abonnez-vous, comme ça, vous loupez rien. Dès qu'il y a un nouvel épisode, ouais. Hop, vous êtes dessus.
Eh ben, c'est parfait. Merci Pierre, merci Wilfried, Denis et Miguel Fernandez. Donc, qui était notre invité. À très bientôt, Entre les poteaux. Ciao, ciao.